Le Club des idées sur France Inter en compagnie d'Alexis Brézé du Figaro, de Laurent Geoffrin de Libération et de Laurence Luret de France Inter. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous et à toutes.
Bonjour.
Vous allez nous parler d'un collectif, un ouvrage collectif ce matin, L'âge de la régression, Laurence.
Oui Patricia, L'âge de la régression avec ce sous-titre évocateur, Pourquoi nous vivons un tournant historique. Voilà un livre qui tombe à pic pour cet entre-deux-tours. Écrit par 15 intellectuels de gauche de renommée mondiale, traduit simultanément en 13 langues, il constate que la vague populiste constitue un retournement idéologique majeur. D'Erdogan en Turquie à Moody en Inde, en passant par Poutine en Russie ou Trump aux États-Unis, plus qu'une récession, une régression, disent les auteurs. Laurent Geoffrin de Libération, alors pour les auteurs, cette grande régression n'est pas un repli passager, c'est un retournement, la fin du monde bâti au lendemain de la chute du mur de Berlin, disent-ils. Vous êtes d'accord?
Oui, alors je constate que dans tous les pays du monde, il y a des gens hostiles aux idées du Figaro. J'aurais dit qu'ils étaient plutôt hostiles aux idées de Libération, moi, mais tous ces populistes,
mais bon, je lis le livre. Il y a des auteurs de tous les pays, ils parlent de toutes sortes de pays, de l'Inde, d'Israël.
Ah, les auteurs sont hostiles aux idées du Figaro, et les électeurs dont les auteurs parlent sont hostiles aux idées de Libération. Je crois qu'on a un parfait résumé de l'affaire.
Alors, plus
c'est
sérieusement.
C'est ça la régression, justement. C'est qu'effectivement, franchement, ils enfoncent un peu une porte ouverte. On a déjà écrit ça 3000 fois, que dans beaucoup de pays du monde, les idées nationalistes, identitaires, traditionnalistes éventuellement, populistes, etc., sont à l'offensive et ont marqué des points, même obtenu des victoires considérables, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, mais aussi en Inde, en Turquie, et dans plein de pays, quoi. Donc ils essayent de comprendre pourquoi. Il y a une chose qui me paraît juste dans ce qu'ils disent, c'est qu'effectivement les politiques, ou les excès en tout cas des politiques néolibérales ou sociales libérales, ont favorisé cette évolution et donc ont porté en avant des gens qui parlent aux classes populaires le langage de l'identité nationale, de la tradition, de la religion éventuellement, et donc ont réussi à constituer des nouvelles forces politiques qui marquent des points en permanence. Ça c'est vrai. Il y a peut-être un... Je vais laisser me braiser peut-être...
Peut-être, oui, parce que là, ça fait déjà 4 minutes et son tour. Alexis Brézé du Figaro.
Non, mais je partirai du même point que Laurent Geoffrin. C'est vrai que c'est quelque chose qui est vu et revu et depuis longtemps, mais pas faux pour autant. Hein, que quand on dit « cherche à comprendre », je pense que dans une... Ce sont des universitaires de gauche, une gauche assez radicale, assez mélenchoniste. Alors, c'est de tous les pays, mais c'est quand même ça l'idée. Souvent, je trouve que leur analyse est quand même tellement marquée par le jugement moral que parfois elle en est un peu obscurcie. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir un jugement moral sur tous ces phénomènes, mais quand c'est tout le temps le nazisme, la tentation policière, de temps en temps, on aimerait un tout petit peu plus de distance pour mieux comprendre les phénomènes. La deuxième chose, moi, qui me frappe, c'est le côté grand méli-mélo. Qu'on nous dise que dans les pays occidentaux, Trump, le Brexit, Le Pen, tout ça, ça répond sans doute à un même faisceau de causes, je suis d'accord, encore faut-il voir lesquels. Mais alors allez nous dire que Modi en Inde, Erdogan en Turquie, Poutine en Russie, c'est la même chose. Franchement, je crois pas. C'est pas le néolibéralisme qui crée Erdogan, et Erdogan n'est pas lui-même un promoteur du néolibéralisme. Poutine, on peut pas dire ça non plus. Donc il faut pas tout mélanger. Qu'il y ait des méchants dans le monde, depuis la nuit des temps, il y en a toujours eu. Mais tout ramener, tout mettre dans la même, tout le même dans la même case, c'est pas tout à fait vrai. Après, la question du néolibéralisme et des effets de la mondialisation dans les pays occidentaux, ça me paraît absolument une vraie question qui mérite d'être posée. Je pense que la réponse qu'apportent les auteurs de façon à peu près unanime est assez caricaturale.
Laurent Geoffrin.
Non, je crois qu'on peut dire honnêtement qu'il y a un point commun, c'est-à-dire que les réactions nationales, nationalistes, religieuses, ont toutes comme point de départ un refus ou une protestation contre certains aspects de la mondialisation. Je crois qu'on peut se...
Non, je crois pas. Vrai. L'islamisme en Afghanistan, l'islamisme en Égypte... l'islamisme en Arabie Saoudite ou l'islamisme en Syrie et en Irak n'est pas lié au déclassement des classes moyennes, dont on peut parler pour les pays occidentaux. Je crois que c'est vraiment une histoire autonome.
Leur fil rouge sur les inégalités croissantes dues à la mondialisation, ça vous paraît quelque chose d'intéressant ou pas?
Vrai, vu qu'on les dénonce depuis 30 ans, donc on est d'accord, bien sûr. C'est un peu mécanique, c'est-à-dire que il y a inégalité, donc il y a populisme et extrême droite. Bon, c'est pas toujours le cas, d'abord. Et deuxièmement, les réactions d'extrême droite sont également liées à des phénomènes culturels, pas seulement à des questions socio-économiques. L'immigration, ça joue beaucoup. Alors on peut dire, oui, mais l'immigration, c'est un des aspects de la mondialisation libérale, d'accord, mais enfin, il y a beaucoup de gens qui défendent l'immigration, qui défendent les immigrés, qui se mobilisent pour la cause, et qui ne sont pas du tout libéraux en économie. Donc c'est un peu plus compliqué.
Je pense qu'effectivement, cette affaire de mondialisation est centrale, mais quand on analyse, encore faut-il en voir aussi un certain nombre d'aspects positifs. Et ça, ils ne le voient pas du tout. Ce phénomène de globalisation et de mondialisation est la source d'un enrichissement, d'une amélioration du niveau de vie des trois quarts de l'humanité. Nous, on en souffre dans les pays occidentaux, qui sont en régression par rapport aux autres. C'est un fait. Mais il ne faut quand même pas cacher la réalité. Les Chinois, les Indiens, les Brésiliens, et même dans une certaine mesure encore que les Africains, aujourd'hui, ils en profitent. Donc bon, par ailleurs, philosophiquement, c'est quand même une philosophie de liberté, qui a tout un tas de défauts, et on va en parler. Mais jeter ça globalement, et en disant, il faut faire... Parce que au fond, ce qui sous-tend ce livre, c'est l'idée du populisme de gauche. Ça ressemble.
Ça dépend lesquels. Ils sont pas tous.
Mais grosso modo, on sent bien qu'il y a une école de pensée. Chantal Mouffe. On va rejeter la mondialisation en créant une sorte de populisme anti-libéral. On reprend le populisme et on va faire quelque chose d'anti-libéral qui va effacer la mondialisation, ce qui paraît impossible. Et par ailleurs, effacer ces mauvaises pensées des peuples que le néolibéralisme leur aurait inculquées, qui sont l'attachement aux nations et aux traditions.
Alors,
je ne crois pas du tout ça. C'est quelque chose de naturel dans
les peuples. L'anthropologue indien Arjun Aparudhai dit que la perte de souveraineté économique engendre partout une posture qui consiste à brandir l'idée de souveraineté culturelle. Vous en pensez quoi, Laurent Geoffrin ?
C'est l'économisme, comme on dit dans le mouvement socialiste, est toujours simpliste, quoi. Tout ne dérive pas de l'économie. Il y a des réactions culturelles qui sont indépendantes de la situation de la production ou de l'organisation du travail, etc. C'est des choses qui ne sont pas entièrement subordonnées l'une à l'autre. Donc il y a des réactions culturelles ou des réactions xénophobes contre les étrangers, même dans des sociétés très prospères. Vous prenez le cas des pays scandinaves qui sont beaucoup moins inégalitaires que les autres, et qui sont des pays très policés, très civilisés, avec un état-providence extrêmement développé et avec très peu de chômage. Mais ils ont pareil des mouvements populisto-nationalistes à affronter, qui sont contre l'immigration, tout simplement.
Parce que là, l'idée sous-jacente, c'est que le néolibéralisme aurait inculqué dans le cœur et l'esprit des peuples des idées horribles, atroces, d'identité, d'attachement à chez moi par rapport à chez les autres, de je suis attaché à mes traditions. Et ça, c'est le néolibéralisme qui aurait besoin de ça pour se sauver.
Ils disent pas ça, ils disent c'est un refuge, une réaction.
Non, justement, ils disent pas que c'est une réaction, c'est quand même un sous-produit dont le néolibéralisme se nourrit pour affirmer son emprise sur les choses. Oui, d'abord, je ne crois pas, et deuxièmement, ce sont des sentiments absolument naturels. Être attaché à ses traditions, à sa famille, à son chez-soi, à son mode de vie. Les gens n'ont pas attendu le néolibéralisme.
Ce qui est moins naturel, c'est d'être xénophobe.
Mais toute forme d'attachement, toute forme d'attachement à ses racines n'est pas de la xénophobie. Et peut-être justement faudrait-il en préserver une partie pour ne pas tomber dans les excès dans lesquels aujourd'hui c'est en train de tomber. Mais il y a une espèce de disqualification de toute idée de tradition, d'enracinement et de civilisation qui me paraît assez absurde.
Alors je rappelle que vous parlez donc d'un ouvrage collectif intitulé « L'âge de la régression ». Laurence Duret.
Oui, écoutez, alors moi je dirais que c'est un livre très intéressant qui donne une boîte à outils pour penser ou en tout cas essayer de comprendre la période que nous vivons. Alors il a été traduit simultanément en 13 langues, il rassemble 15 intellectuels de gauche, de renommée mondiale, je le rappelle pour les auditeurs qui prendraient cette chronique en route, comme le sociologue français Bruno Latour, le philosophe slovène Slavoj Žižek, c'est une star de la philosophie mais encore peu connue en France, ou encore l'anthropologue indien Arjun Aparudhai et bien d'autres. Ils se demandent tous comment on a pu en arriver là. Montée des nationalismes et des démagogues, repli sur soi, post-vérité, c'est comme si nous assistions à une grande régression collective, disent-ils. D'Erdogan en Turquie, à Moody en Inde, en passant par Poutine en Russie ou Trump aux États-Unis, on l'a dit. Alors la chute du mur de Berlin et la mondialisation n'ont pas, contrairement à ce que l'on espérait, conduit à l'apaisement général espéré. Au contraire, les inégalités croissantes ont provoqué un ressentiment qui monte, disent-ils, et s'est transformé en épidémie globale, selon les mots de l'essayiste indien Pankaj Mishra, j'espère que je prononce à peu près bien, dans son texte très intéressant intitulé la politique à l'ère du ressentiment. Lisez aussi l'analyse tout en finesse de Bruno Latour sur l'Europe refuge, ou le constat d'Arjun Aparudhai sur notre fatigue de la démocratie. C'est la fin d'un monde, celui bâti après la chute du mur de Berlin. Et dans ce processus de déglobalisation, le sociologue Zygmunt Bauman nous rappelle, dans ce qui fut d'ailleurs l'un de ses derniers textes, qu'il faudra, je cite, « garder la tête froide, avoir des nerfs d'acier et beaucoup de courage ». Bref, un livre à compulser, regarder, picorer avec 15 textes courts que vous pouvez donc picorer selon votre curiosité et le temps, bien sûr, dont vous disposez pour vous aider, eh bien, à faire vos propres choix. Je vous rappelle le titre,
oui, on n'a
Patricien.
Pas dit l'éditeur non plus.
Voilà, l'âge de la régression. Pourquoi nous vivons un tournant historique? Donc, c'est un ouvrage collectif, vous l'avez compris. C'est publié en France par une toute jeune maison d'édition, les éditions Premier Parallèle.
Et c'est la fin du Club des idées. Laurence Luret, Laurent Geoffrin, Alexis Brézé. Merci à tous les trois.
Merci.
À